VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous en direct du studio 9 de La Voix de l'Amérique à Washington. Bienvenue dans le monde aujourd'hui, au sommaire ce soir. La force française Barkhane annonce la neutralisation d'une cinquantaine de djihadistes dans le centre du Mali. Selon les Nations Unies, les violences au Burkina ont déplacé près de 4000 personnes par jour. À la veille de la présidentielle au Togo, nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Lomé. Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, est confiant de la prochaine signature d'un accord avec les talibans après une baisse des violences en Afghanistan. Également dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. Ce soir, dans l'actualité africaine, la force française Barkhane a mis hors de combat ces derniers jours une cinquantaine de djihadistes dans le centre du Mali. C'est ce qu'a annoncé l'état-major français alors qu'un groupe a récemment prêté allégeance à l'organisation État islamique dans cette zone. Nathalie Barge.
Entre le 9 et le 17 février, Barkhane a mené des opérations autour de Mopti qui ont permis de neutraliser une cinquantaine de djihadistes, de détruire une trentaine de motos et de pick-up et de saisir armement, téléphone et matériel électronique, indique l'état-major français. Au cours d'une première opération au nord-ouest de la ville, des frappes aériennes ont permis de neutraliser une vingtaine de combattants, dont un cadre du groupe État islamique au Grand Sahara. Fin janvier, à Nampala, près de la frontière mauritanienne, une soixantaine de personnes ont prêté allégeance à ce groupe dirigé par Adnan Abou Walid Al-Sarwi. L'armée française ne précise pas si les frappes visaient cette katiba. Une deuxième opération menée au sud de Mopti, où sévit la katiba Massina d'Amadou Koufa, a permis de mettre hors de combat une trentaine de djihadistes, ajoute l'état-major. La force Barkhane vient d'annoncer son passage de 4500 à 5100 hommes d'ici à fin février, dans l'espoir d'inverser le rapport de force sur le terrain.
Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, quelques 4000 personnes sont déplacées chaque jour depuis le début de l'année par les violences au Burkina Faso. Bagassi Koura.
En 2019, la moyenne était de 1400 déplacés par jour à la suite d'attaques commises contre les civils et les autorités locales, a déclaré Bahar Baloch, porte-parole du ACR. L'agence onusienne indique avoir comptabilisé 765 000 déplacés au Burkina Faso, dont plus de 700 000 ces 12 derniers mois. Environ 150 000 personnes ont été déplacées durant les trois dernières semaines. La plupart des déplacés séjournent dans des communautés d'accueil. Le ACR peine à leur venir en aide car dans de nombreuses régions, l'accès est problématique en raison de l'insécurité. Les personnes qui fuient les violences ont fait état, selon le ACR, d'attaques contre leur village, de meurtres, de viols et de pillages.
Au Nigeria, la justice a libéré aujourd'hui 87 membres d'un groupe chiite radical accusés d'être responsables de la mort d'un soldat au cours d'un rassemblement religieux qui avait tourné en bain de sang en décembre 2015. En RDC, au moins 5 soldats et plusieurs civils ont été tués hier et aujourd'hui dans le territoire de Beni. Les ADF, les forces démocratiques alliées, sont accusées d'avoir massacré près de 400 civils depuis novembre, plus de 1000 sur les 5 dernières années. Par ailleurs, le gouvernement congolais a autorisé le redémarrage en RDC du premier réacteur nucléaire installé en Afrique subsaharienne. Ce réacteur est à l'arrêt depuis 1994. Ce réacteur expérimental est installé près de l'université de Kinshasa. Sommet pour la paix entre le Rwanda et l'Ouganda, le président Paul Kagame et son homologue Yoweri Museveni se sont rencontrés à Gatuna, la frontière de leurs deux pays, en présence de Félix Tshisekedi de la RDC et de João Lourenço de l'Angola. Nous faisons le point avec Eddie Isango.
Les quatre chefs d'État ont convenu que l'Ouganda devra vérifier les allégations du Rwanda sur des actions des forces hostiles à Kigali provenant du territoire ougandais. Si c'est avéré, les gouvernements ougandais est prié de prendre toutes les mesures pour y mettre fin, ainsi que des mesures préventives pour que cela ne se répète plus, indique les communiqués finaux. Une fois cette recommandation remplie et communiquée aux chefs d'État, les présidents Tshisekedi et Lourenço, les facilitateurs, conviendront dans les 15 jours jours de la tenue d'un sommet quadripartite à Gatuna ou Katuna pour la cérémonie de rouverture des frontières et la conséquente normalisation des relations entre les deux pays. Cette action devra être vérifiée et confirmée par la commission ministérielle ad hoc pour la mise en œuvre du mémorandum d'entente de Luanda.
Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar a été nommé officiellement premier vice-président ce soir et il prêtera serment demain. Le président Salva Kiir et M. Machar ont convenu hier de former un gouvernement d'union nationale à la date butoir de samedi pour tenter de mettre fin à 6 années d'une guerre civile dévastatrice. Les Algériens ont manifesté très massivement aujourd'hui à la veille du premier anniversaire de la contestation populaire qui a chassé le président Abdelaziz Bouteflika, mais n'a pas réussi à abattre le système au pouvoir depuis l'indépendance. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette édition.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et les talibans signeront un accord le 29 février, c'est ce qu'ont annoncé les deux parties dans des déclarations simultanées. Cette concrétisation constituerait une avancée majeure vers la fin de ce qui est considéré comme la plus longue guerre de l'histoire américaine. Les précisions de Timothée Donangmaï.
L'accord prévoit un retrait par phase des 13 000 soldats américains présents en Afghanistan. En retour, les talibans veilleront à ce que le territoire afghan ne soit pas utilisé à des fins terroristes, de même qu'ils participeront au processus de réconciliation dans leur pays. La cérémonie de signature aura lieu à Doha, au Qatar, et sera précédée par 7 jours de réduction de la violence à partir de samedi à minuit. Les troupes américaines, les forces de sécurité afghanes et les combattants talibans se sont engagés à respecter cette mesure. Les négociations inter-afghanes débuteront peu de temps après et s'appuieront sur cette étape fondamentale pour conclure une paix complète et permanente, précise dans sa déclaration le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Cela fait 18 mois que les États-Unis et les talibans sont engagés dans de difficiles négociations au Qatar. Ils semblaient proches d'un accord, mais le président Trump avait suspendu les tractations suite à la mort d'un soldat américain dans une attaque menée par les talibans.
En Iran, le vote pour les législatives a été prolongé aujourd'hui, où la faible participation devrait profiter aux conservateurs après la disqualification de milliers de candidats réformateurs et modérés. Direction l'Europe à présent, après l'attentat raciste de Hanau, l'Allemagne compte renforcer la surveillance policière, notamment autour des mosquées, pour tenter de contrer une menace d'extrême droite qu'elle qualifie de très élevée. Les rassemblements d'ailleurs, toujours en Allemagne, en mémoire des 9 victimes de la double fusillade de Hanau organisée jeudi soir dans une 50aine de villes allemandes, ont laissé place à des débuts de polémiques sur les armes, la protection des minorités et le rôle du parti d'extrême droite AFD. Retour sur le continent américain pour parler des présidentielles américaines de 2020. Le Nevada tient demain la 3e primaire démocrate après l'Iowa et le New Hampshire. Le vote latino pouvant être décisif dans cet État, tous les candidats à l'investiture démocrate ont lancé des opérations charmes vers les électeurs hispaniques. Lionel Gaïma.
Au Nevada, plus d'un habitant sur 4 d'origine latino-américaine. 328 000 hispaniques y ont le droit de voter. Le football est une passion universelle. À Las Vegas, le ballon rond se joue aussi en politique sous le nom de GoTV, Get Out the Vote. Autrement dit, sortez pour voter. Il est parrainé par le sénateur du Vermont, Bernie Sanders. Chuck Rocha, son principal conseiller, explique.
Vous avez d'autres campagnes en cours dans tous les quartiers et nous sommes ici au cœur des communautés oubliées.
La campagne de Sanders vers les Latinos a commencé il y a 8 mois et cela a payé. Un récent sondage le montre en tête avec 48% de soutien parmi les Hispaniques. Elizabeth Warren a elle aussi sa stratégie pour gagner le vote hispanique.
Aujourd'hui, un emploi avec le salaire minimum ne peut protéger une maman et son bébé de la pauvreté. C'est faux.
L'autre candidate, la sénatrice de Minnesota, Amy Klobuchar, a dévoilé cette semaine une annonce publicitaire tout en espagnol. Et le vote latino sera très recherché le 3 mars lors du Super Tuesday. Ce jour-là, 14 États vont voter dans les primaires
dont la Californie, qui a la plus grande population hispanique des États-Unis.
Enfin, je termine avec l'épidémie de coronavirus. L'inquiétude grandit. L'OMS a affirmé aujourd'hui que la période propice pour enrayer l'épidémie due au nouveau coronavirus se rétrécit et s'alarme de l'absence de liens épidémiologiques clairs dans des nouveaux cas apparus en dehors de la Chine. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Bagassi Koura.
Le climat des affaires au Sénégal s'est affaissé de 0,5 points au mois de décembre 2019 après une amélioration de 1,4 points enregistrée au mois précédent selon Financial Afrique, citant une enquête d'opinion réalisée auprès des chefs d'entreprise par la direction de la prévision et des études économiques. La Côte d'Ivoire aura désormais accès à la facilité régionale de soutien aux liquidités grâce à l'augmentation de son capital auprès de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique à 3,9 milliards de francs CFA. Selon Financial Afrique, le nouvel apport qui a été réalisé avec le soutien financier de la KfW par l'intermédiaire du gouvernement allemand est une opportunité supplémentaire pour la Côte d'Ivoire de renforcer l'accès à l'électricité dont la capacité de production est actuellement à 2229 mégawatts. Des enquêtes sur la mauvaise gestion présumée des grands travaux présidentiels ont conduit à l'interpellation d'un patron du BTP en République démocratique du Congo, où les autorités tentent de lutter contre la corruption endémique, a indiqué ce jeudi le ministre de la Justice, expliquant que le directeur général de la société Safricas a été retenu au parquet mercredi. Safricas est l'une des entreprises qui construisent une demi-douzaine de ponts routiers devant enjamber la chaussée à Kinshasa pour en finir avec des bouchons au grand croisement de la capitale.
Et maintenant, la page sport présentée par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Ibrahim Camara n'est plus le sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire.
Oui, la Fédération ivoirienne de football a mis un terme à sa collaboration avec le sélectionneur de l'équipe nationale A. Nommé sélectionneur en juin 2018, Ibrahim Camara était en même temps l'entraîneur de l'équipe des moins de 23 ans. À la CAN 2019 en Égypte, les éléphants ont été éliminés en quart de finale par les Fenecs d'Algérie, vainqueurs de la compétition. Les espoirs finalistes de la CAN de leur catégorie se sont qualifiés pour le tournoi de football masculin des Jeux olympiques 2020 prévus à Tokyo au Japon. Pour les éliminatoires de la CAN 2021 prévues au Cameroun, l'équipe nationale ivoirienne compte 3 points après une victoire sur le Niger et une défaite concédée face à l'Éthiopie.
Le Cameroun a clôturé le tournoi de Brazzaville par un match nul.
Oui, pour son second match dans le mini-tournoi, nouvelle étape de sa préparation pour le CHAN 2020. Les Lions indomptables se sont accrochés au pays hôte, le Congo 1-1. Dimanche dernier, le Cameroun a ouvert la compétition après un succès 1-0 contre la République démocratique du Congo. Cap maintenant sur le retour à Yaoundé pour continuer la préparation. Les Lions indomptables affronteront le Rwanda le 24 février à domicile. Pour la phase finale, le Cameroun figure dans le groupe A avec le Mali, le Zimbabwe et le Burkina Faso. La compétition aura lieu du 4 au 25 avril prochain.
À Babel, Yeshane améliore le record du monde du semi-marathon.
Oui, l'Éthiopienne de 28 ans a battu le record du monde du semi-marathon en 1h 4 minutes 31 secondes. Performance réalisée à Ras Al Khaimah aux Émirats Arabes Unis. À Babel, Yeshane, qui abaisse son meilleur temps personnel de plus d'une minute, a été 20 secondes plus rapide que la précédente meilleure marque mondiale établie le 22 octobre 2017 à Valence par la Kenyane Jocelyne Jepkosgei. À Ras Al Khaimah, l'Éthiopienne a devancé la détentrice du record du monde du marathon, la Kenyane Brigitte Kosgei. Je n'imaginais pas réaliser ce temps, j'ai réalisé le record du monde, s'est réjoui Yeshane après sa course.
Le tirage au sort de la Basketball Africa League a été effectué.
Oui, les 12 équipes issues des qualifications pour cette première édition ont été réparties en deux conférences. La conférence Nil comprend River Hoopers du Nigeria, FAP du Cameroun, Ferroviaro du Mozambique, Patriotes du Rwanda, Zamalek d'Égypte et l'US Monastir de la Tunisie. Cette conférence disputera ses rencontres à Monastir Caire et Lagos. On retrouve GS Pétrolier, Petro Luanda, AS Salé, AS Douane, GNBC et AS Police dans la conférence Sahara. Les matchs prévus à Dakar, Salé et Luanda débutent le 13 mars dans la capitale sénégalaise. Les quatre meilleures équipes de chaque conférence se qualifieront pour les play-offs qui auront lieu à Kigali à partir du 28 mai.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. 3,6 millions d'électeurs togolais sont appelés aux urnes demain samedi. Mardi, la Commission électorale nationale autonome a suspendu trois organisations de la société civile chargées de superviser le vote, les accusant de s'immiscer dans les opérations électorales. Une accusation que rejette en bloc l'une d'entre elles, la Concertation nationale de la société civile ou CNC. Au micro de notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Herman Umbo, le président de son conseil d'administration, Bojo Kojo Edouard Danou, nous raconte sa version des faits.
Nous avons, de façon normale, et posé les actes qu'il faut. Nous avons formé nos superviseurs, nous avons formé nos observateurs et nous étions prêts à les déployer sur le terrain. Lorsque le mardi passé, nous avons reçu un courrier de la CENI qui nous écarte totalement du processus. Il faut dire qu'on a eu le sentiment comme si le ciel tombait sur nos têtes. Nos membres sont très déçus et aujourd'hui nous sommes là et complètement écartés de ce processus et c'est dommage.
Alors que vous reproche exactement la Commission nationale indépendante chargée d'organiser les élections?
Jusqu'à présent, nous-mêmes, on se pose la question. Parce que ce que le courrier nous reproche, c'est de nous apprêter à nous immixer, à nous mettre dans le processus électoral du Togo, ce qui est totalement hors de notre compréhension parce que nous, en tant qu'organisation de la société civile du Togo, nous n'avons ni les moyens ni les compétences pour nous immixer dans un processus électoral. Et donc, c'est une raison qui vraiment nous ne comprenons pas.
On vous accuse également de participer à la campagne de certains candidats.
Ça, c'est totalement faux. Parce que la CNRC, depuis sa création, a eu une politique, celle de ne jamais prendre position vis-à-vis de qui que ce soit. Nous sommes totalement apolitiques, nous sommes totalement neutres et notre travail à nous consiste à dire aux uns aux autres ce qui marche et ce qui ne marche pas pour améliorer le processus électoral au Togo.
C'est demain les élections, qu'allez-vous faire maintenant?
Aujourd'hui, nous n'avons plus rien à faire. C'est dommage parce que nous étions très bien partis pour observer ce processus-là et faire en sorte qu'on arrive à une élection transparente et apaisée. Malheureusement, nous ne pouvons rien. Nous avons déjà publié un communiqué dans lequel nous regrettons la situation. Et après les élections, nous comptons prendre des contacts pour voir comment on peut améliorer cette situation à l'avenir.
Pensez-vous être victime d'une injustice? Quel est votre état d'âme aujourd'hui?
C'est totalement clair. Ça, c'est injuste par rapport à la CNSC, par rapport à ses membres qui sont sur tout le territoire togolais. Et parce que présentement, je ne suis pas capable de dire à qui que ce soit de nos membres ce qui s'est passé réellement, pourquoi on nous écarte du processus.
C'était Bojo Kojo Edouard Danou, président du conseil d'administration du CNSC, la Concertation nationale de la société civile. Il répondait aux questions de notre envoyé spécial à Lomé au Togo, Irénée Herman Umbo.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Conséquence de la fermeture prolongée des frontières du Nigeria avec ses voisins, le prix du riz a doublé, voire triplé, sur les marchés de la capitale nigériane. C'est le constat qu'a fait notre correspondant en se rendant sur un marché d'Abuja. Écoutez son reportage.
Le riz subit de manière dramatique la fermeture des frontières du Nigeria avec ses voisins. Cette denrée de première nécessité est devenue de plus en plus rare, par conséquent de plus en plus chère. Sur le marché de Garki à Abuja, il est stocké dans certaines boutiques. Son prix a quasiment doublé, voire triplé pendant ces 5 derniers mois. Le sac de riz local est passé de 8 000 à 16 000 naira et dans certains cas 19 000, soit un équivalent de 20 à 40 euros ou jusqu'à 48 euros. Pour les Nigériens, la situation est de plus en plus difficile, comme cette dame qui est venue chercher cette denrée rare.
La situation est difficile. Même si vous amenez de l'argent avec vous au marché, cet argent ne suffira pas pour acheter tout ce que vous voulez. Donc vous voyez, c'est pas facile. Je me débrouille seulement avec ce que j'ai et je suis vraiment triste.
Depuis le 20 août dernier, le Nigeria a verrouillé ses frontières avec ses voisins, le Bénin, le Niger, le Tchad, le Cameroun, le Ghana et le Togo, avec pour objectif de renforcer la sécurité et lutter contre le marché noir. Des mesures jugées par beaucoup comme protectionnistes, mais qui commencent à peser sur le géant africain. L'inflation a augmenté pour le cinquième mois consécutif à 12,13% en janvier 2020. Au marché de Garki, le plus grand marché d'Abuja, les grossistes se plaignent. Johanne Ifanjichukwu.
Ils doivent trouver un moyen pour faire baisser les prix, parce que tout le monde ne peut pas avoir les moyens pour faire face aux coûts. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens souffrir. Les gens souffrent. Imaginez, moi je vends le riz en gros, mais il y a des gens qui viennent parfois me prier pour que je leur vende une demi-mesure. À certains moments, j'ai pitié d'eux. Et j'ouvre les sacs pour leur vendre. On avait l'habitude de vendre beaucoup pendant les fêtes de fin d'année, mais ça n'a pas été le cas en décembre dernier.
Pour Odilim Imvegbara, économiste, la crise actuelle s'explique par le fait qu'il y a un manque à gagner à cause de la fermeture des frontières.
Cela signifie que vous essayez de produire ce que vous aviez l'habitude d'importer. Si vous commencez à produire ce que vous aviez l'habitude d'importer, il y aura un manque parce que vous n'importez plus. Mais la bonne nouvelle est que lorsque vous créez un manque, que les producteurs locaux et ceux de l'extérieur viendront récompenser ce manque à gagner dans une période de temps. Donc au début, vous verrez une flambée de prix sur le marché, mais éventuellement les prix vont commencer à baisser parce que les produits importés seront désormais localement faits.
Le gouvernement affirme que des marchandises sont importées depuis les pays voisins pour éviter de payer des droits. La plupart de ces marchandises sont ensuite introduites en contrebande au Nigeria. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
L'arachide est une exportation importante du Sénégal. Il est produit essentiellement dans le bassin arachidier dans le centre du pays. Cette année, les grosses commandes des commerçants chinois ont perturbé la saison de vente traditionnelle du Sénégal, récompensant les agriculteurs avec de gros bénéfices, mais laissant les acheteurs locaux avec de minces recettes. Arzuma Compaoré.
Selon un rapport de la Banque mondiale de 2017, l'arachide emploie environ les deux tiers de la population rurale au Sénégal. Cette culture est une principale source de revenus pour la grande majorité des exploitations familiales. Mais la plupart des activités normalement associées au commerce de l'arachide se sont déplacées vers les villages voisins comme Sanguil, où des acheteurs chinois se sont installés. L'an dernier, 200 000 tonnes de cacahuètes sont allées à la Chine, au grand bonheur des agriculteurs. Sidi Ba, porte-parole de l'association des producteurs d'arachide.
Ce qui a changé, c'est que le marché est ouvert. Et aujourd'hui, j'ai dit que pendant presque plus de 20 ans, nous avons vendu à perte. Et cette année, nous avons vendu avec un profit. Un profit quand même qu'ils jugent important. Et nous disons que la boule a tourné et qu'aujourd'hui, les paysans des années 70 et des années 2000 n'est pas celui semblable à celui de 2020.
Les commerçants chinois ont été accusés de concurrence déloyale en achetant des arachides avant même leur récolte. Selon les agriculteurs et les autorités locales, ils offrent 300 francs CFA pour 1 kg d'arachides non décortiqués ou 525 francs CFA pour les noix décortiquées. En contrepartie, les entreprises locales de transformation des arachides, qui offrent généralement 210 francs CFA le kilo, ont eu du mal cette année à s'approvisionner et plusieurs ont été contraintes de licencier du personnel. Bay Nias Fall, un agriculteur de 50 ans, il dit qu'il a vendu 15 tonnes d'arachides aux Chinois à un meilleur prix que les entreprises sénégalaises qui transforment les noix en huile d'arachide. Mais il pense que ses résultats devraient être bien plus élevés.
Le prix auquel les Chinois achètent n'est pas bon pour nous. Nous vendons à perte. Les Chinois nous dictent leur prix, mais c'est plutôt au gouvernement de leur imposer un prix.
Le ministre sénégalais de l'Agriculture a déclaré que la Chine était le principal acheteur d'arachide sénégalaise depuis 2014, lorsque les deux pays ont signé un accord. Mais les quatre principales entreprises sénégalaises de transformation de l'arachide, qui dépendent de la production locale, souffrent des retombées. Moussa Fall, décortiqueur d'arachide.
Nous ne pouvons pas vendre d'arachide à 200 francs CFA alors que certains nous proposent 300 francs CFA. C'est très logique. Quant au gouvernement, il a également fixé le prix à 200 francs CFA seulement.
Le gouvernement a pris des mesures pour protéger l'industrie, suspendant les exportations d'arachide en janvier dans le but de permettre aux entreprises locales de se rétablir. À plus long terme, le gouvernement souhaite que les agriculteurs et les transformateurs d'arachide se mettent d'accord sur des modalités de ce commerce.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Les Algériens observent le premier anniversaire du mouvement populaire qui a fait partir le président Abdelaziz Bouteflika. L'élection du président Abdelmadjid Tebboune ne semble pas avoir entamé leur détermination à obtenir un changement complet de la direction du pays. Timothée Donangmaï a joint Chahreddin Beria, chef du bureau régional du journal El Watan. Il était joint à Tlemcen.
Pratiquement rien n'a changé. La principale revendication, c'était le départ de ce régime. Or, aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est issu de ce régime, c'est-à-dire l'Irak. La révolution n'a pas réussi, ça c'est mon avis. C'est vrai, on a réussi à faire partir le président Bouteflika. Mais la revendication principale, c'était et c'est toujours le départ de ce régime. Malheureusement, nous vivons toujours dans ce régime qui met les gens en prison, qui n'a pas amélioré la situation du pays, c'est toujours le même pays de Bouteflika.
Quelle est l'attitude du nouveau gouvernement par rapport aux manifestations?
Ben, c'est toujours le président qui se veut, qui veut montrer cette apparence de président ouvert aux médias, au peuple. Malheureusement, il y a toujours des personnes qui sont en prison pour délit d'opinion. Il y a des dizaines de gens qui sont toujours en prison. C'est le mot pratique du régime de Bouteflika.
Quelle est la stratégie des manifestants face à cette situation?
Eh bien, justement, ça, c'est le problème. La stratégie, donc, on n'a pas changé de stratégie. Les manifestants n'ont pas changé de stratégie. Ils marchent toujours le vendredi, les étudiants le mardi. Mais c'est une stratégie qui n'a pas donné ses résultats, les résultats escomptés. Donc, à mon avis, il faut qu'ils changent de stratégie. Et ça arrange le pouvoir, puisque les manifestants marchent le vendredi. Ça ne dérange ni l'économie du pays, ni la politique, ni rien du tout. Le vendredi, c'est un jour férié, c'est un jour de prière, donc ça ne dérange pas le régime.
Comment s'organise la direction de ce mouvement populaire?
Il n'y a pas de direction. C'est-à-dire, c'est presque spontané. Je dis presque spontané parce que les citoyens de 48 villages, de 48 départements, ils communiquent. Par le biais de Facebook, c'est-à-dire sans communiquer directement.
Mais comment obtenir les résultats escomptés si le mouvement n'a pas de chef clairement défini?
Justement, ça c'est mon avis, c'est ce que je reproche dont je fais partie. C'est-à-dire, si on veut dialoguer avec ce pouvoir, il faut qu'il y ait des représentants. Malheureusement, au sein du mouvement populaire, on refuse cette alternative. On refuse qu'il y ait des représentants. Sont susceptibles d'engager avec le pouvoir. C'est ce qui manque, c'est l'organisation, c'est une stratégie. Donc ce pouvoir, une fois, bon, c'est bon à demander au mouvement de dialoguer, mais sur le terrain, on a refusé toute personne voulant dialoguer avec le pouvoir. C'est pire, certains se sont présentés comme des représentants, ils ont été bannis, ils ont été considérés comme des traîtres. Donc là, c'est le point faible du mouvement populaire.
C'était Chahreddin Beria, chef du bureau régional du journal algérien El Watan à Tlemcen. « c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, à la mise en onde Cheikh Thiro, à la console Rob McLean, au micro Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, retrouvez-nous 24h sur 24 sur notre site internet voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, Instagram et Twitter bien sûr. Restez avec nous, tout de suite le RM Show présenté par Roger Muntou. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.